Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission de radio proposée par TechNews en ce 29 mai. Pour cette première partie d'émission et dans le cadre d'un entraînement au grand oral, nous retrouvons Cyril et Ambre qui vont nous présenter chacun leur tour leur grand oral de spécialité mathématiques puis spécialité AGGSP. On commence donc par Cyril qui est ici pour nous parler de la trompette de Gabriel.
Bonjour à tous. Savez-vous que le monde qui nous entoure est différent du monde des mathématiques? En effet, ces deux milieux ont tous les deux des propriétés distinctes. Par exemple, l'univers des mathématiques permet l'existence d'objets impossibles au monde réel. Des objets tels que la trompette de Gabriel, possédant un volume fini et une surface infinie. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut démontrer tout ça et surtout avec quels outils? Eh bien, ça tombe bien, c'est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, premièrement, nous allons faire une approche historique et conceptuelle de cet objet. Puis, ensuite, j'introduirai la notion d'intégrale afin d'utiliser cet outil pour démontrer que, justement, le volume de cet objet est fini et sa surface est infinie. Puis, je terminerai en faisant une approche par le monde réel à travers le paradoxe du peintre. Alors, cet objet mathématique a été imaginé par Evangelista Torricelli vers les années 1640. Et à l'époque, ça constituait un véritable paradoxe. Il faut savoir que ça a beaucoup questionné tous les mathématiciens sur les notions de fini et d'infini. Pourquoi aussi porte-t-il ce nom, la trompette de Gabriel? Alors, il faut aussi savoir que on relie très souvent l'infini au divin. On dit par exemple que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant. Et ici, le prénom Gabriel renvoie au divin, mais surtout à l'archange Gabriel qui souffle dans sa trompette pour annoncer le jour du jugement dernier. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on la visualise, on la construit, cette trompette? Il faut prendre la fonction 1 sur x, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, et effectuer une rotation de 360 degrés autour de l'axe des abscisses. Donc on obtient alors un objet dans l'espace qui a une forme de trompette. C'est un mouvement de révolution pour les plus initiés. Alors, ensuite, je vais introduire la notion d'intégrale. Alors, à quoi ça sert? Une intégrale, ça sert à mesurer une aire sous une courbe. Comment ça fonctionne, c'est pas compliqué à expliquer. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplit l'aire sous la courbe de plein de petits rectangles infinitésimaux. Et la somme de toutes ces aires est égale à celle de l'aire sous la courbe. Pourquoi des rectangles? Je vais vous répondre que ça s'y prête assez bien, il suffit juste de faire longueur fois largeur. On retrouve aussi cette cohérence dans l'écriture de l'intégrale, avec un S stylisé signifiant la somme, et le f de x dx qui correspond à la longueur fois la largeur. La formule pour calculer cette intégrale, c'est la primitive en B moins la primitive en A. Alors, maintenant que nous savons tout cela, appliquons cet outil à notre objet mathématique. Alors, puisque nous sommes dans trois dimensions, cette fois-ci nous n'allons pas utiliser des rectangles infinitésimaux, mais des cylindres infinitésimaux. Donc, des très petits disques, très fins. En soi, c'est des disques. Alors, du coup, on multiplie ces rectangles pour obtenir des disques. Et la formule, c'est, pour obtenir une aire, c'est pi fois r carré. Donc le rayon correspond à notre fonction, donc 1 sur x, et on se retrouve avec l'intégrale de 1 plus l'infini, de 1 à plus l'infini, de pi fois 1 sur x carré, qui décrit le volume de cet objet. Et c'est très simple à résoudre, hein. Au bout de 4 ou 5 lignes, on en déduit que le volume est égal à pi. Maintenant, attaquons-nous à la surface. Ici, c'est quand même bien plus compliqué. C'est des raisonnements du niveau supérieur, d'études supérieures, mais on peut quand même arriver à trouver des résultats avec des fonctionnements de niveau terminal. Ce qu'on fait, c'est qu'on va minorer l'intégrale de la surface par une autre intégrale dont on connaît déjà le résultat, et ce résultat est égal à plus l'infini. Donc, puisque l'intégrale de la surface est supérieure à une intégrale qui est plus petite que elle et qui est égale à plus l'infini, on en déduit qu'elle est forcément, elle aussi, égale à plus l'infini. Alors, maintenant, par l'approche réelle, comment est-ce qu'on pourrait essayer de modéliser cet objet et de le comprendre si on l'avait en face de nous? C'est ce qu'on va voir avec le paradoxe du peintre. Imaginons qu'il soit là, en face, et qu'on veuille le remplir de peinture. Donc, puisqu'il a un volume fini, il nous faudrait un volume fini de peinture. Comment ça pourrait s'expliquer? Tout simplement, la peinture a une épaisseur, c'est-à-dire qu'elle est constituée de particules. Et puisque la trompette devient extrêmement fine en tendant vers plus l'infini, il arrivera forcément à un moment où les particules vont boucher et elle va donc se remplir. Alors que Si on devrait peindre la surface, là, on devrait avoir besoin d'un volume infini. Alors, pourquoi donc? C'est très simple. Imaginons qu'on peigne la surface extérieure. Puisque l'embout de la trompette est infini, il nous faudra donc un volume infini de peinture. Le but de cet oral n'est pas quand même de décrédibiliser les mathématiques du monde réel. Au contraire, on arrive très bien à le comprendre encore mieux lorsqu'on applique les mathématiques en physique. Et je pense que c'est quand même assez beau.
Merci Cyril. C'est maintenant au tour d'Ambre qui aborde quant à elle les sujets complexes de la mode et de l'écologie.
La mode vestimentaire désigne l'actualité et la nouveauté. Ce qui est tendance, la mode est profondément liée à l'état de la société dans laquelle elle évolue. On retrouve les premières traces de vêtements depuis la préhistoire, en peau de bête, où le vêtement avait un rôle plutôt fonctionnel. La mode que nous connaissons verra le jour des milliers d'années plus tard, avec la révolution industrielle. Et la mécanisation, les entreprises du textile produisent davantage et sur mesure. Ces modes de production rapides et quantitatifs ouvrent la voie à une nouvelle ère de l'industrie textile, la fast fashion. Un fléau sociétal et environnemental qui, de nos jours, génère de gros impacts sur la planète, néfaste autant pour la biodiversité que pour les êtres humains. On vient alors à se demander, comment la mode peut-elle devenir une industrie durable? Nous évoquerons dans un premier temps les conséquences de la mode sur l'environnement, puis nous verrons les solutions envisageables pour limiter les impacts, et nous illustrerons cela par l'exemple d'une marque éco-responsable, Patagonia. Il faut savoir qu'en 15 ans, notre consommation de vêtements a tout simplement doublé. Moins cher à fabriquer, les vêtements sont plus nombreux dans nos garde-robes. On achète désormais deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans, qu'on porte en moyenne deux fois moins longtemps. C'est la fast fashion, c'est-à-dire une sorte de mode jetable qui se renouvelle en permanence, et le problème c'est que cette surconsommation a un énorme coût écologique. Pour prendre conscience de son empreinte écologique, prenons le cycle de vie d'un vêtement. Tout commence par la production des matières premières. Pour optimiser les récoltes de coton, par exemple, il faut utiliser des pesticides. Mais aussi beaucoup d'eau. Le coton est d'ailleurs le premier consommateur d'eau devant le riz et le soja, et les ressources en eau finissent par s'épuiser. Ensuite, l'émission de gaz à effet de serre. Le secteur de la mode émettrait 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an selon WWF, soit l'équivalent des émissions de CO2 de tous les vols internationaux et du transport maritime combiné. Vient ensuite la transformation des matières premières, car les produits chimiques finissent souvent dans la nature à la sortie des usines. Et puis ce qui pollue aussi, c'est le transport, car entre le champ et la boutique, il peut avoir parcouru jusqu'à 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la Terre. Et le plus souvent, avant de devenir un jean par exemple, le coton est récolté en Inde, filé au Pakistan, teinté en Chine et cousu en Turquie. Et même une fois produit et acheté, les vêtements polluent, et notamment quand on les lave, car les microfibres qui se détachent sont tellement petites qu'elles ne sont pas filtrées par les stations d'épuration et finissent dans les océans. Et comme les microfibres ne sont pas biodégradables, elles sont mangées par les poissons qui finiront dans nos assiettes. Consommer moins, mais mieux, sensibiliser à une mode éthique, il faudrait, en tant qu'acheteur, on peut faire mieux. D'abord, réfléchissons avant d'acheter. A-t-on vraiment besoin de ce nouveau sweat ou de cette nouvelle robe? Ensuite, lisons les étiquettes. Dans l'idéal, il faut privilégier les écolabels et le coton bio. Ou alors, privilégier les vêtements de seconde main. Renseignez-vous sur l'engagement de la marque. Certaines entreprises misent sur l'éco-conception. En France, des marques se bougent pour proposer des vêtements plus éco-responsables et plus respectueux de l'environnement. Mais alors, qu'est-ce qu'un vêtement éco-responsable? Il y a la partie recyclage, donc utiliser des matières recyclées qui n'auront pas consommé des ressources vierges. Et ensuite, nous avons le côté local pour éviter donc les transports qui polluent énormément. Enfin, nos vêtements peuvent avoir une seconde vie, être recyclés ou simplement mieux entretenus. Ils peuvent être donnés à des associations, par exemple, ou alors revendus. Et le marché du recyclage est d'ailleurs en développement grâce aux sites de revente comme Vinted. L'entreprise californienne, donc Patagonia, par exemple, une pionnière des matières naturelles et recyclées, est une marque au logo montagnard qui témoigne d'un engagement social et écologique fort. Depuis 1985, Patagonia s'auto-impose la taxe terre ou encore le 1% pour la planète qui revient à des associations environnementales dont 10% des bénéfices sont réservés pour la protection de la planète. Et Patagonia propose des vêtements éthiques, biologiques et éco-responsables au prix le plus juste en misant sur l'utilisation de 100% de coton et de chanvre biologique. De plus, la marque s'intéresse au cycle entier d'une pièce, à savoir de sa confection jusqu'à son recyclage. L'un des principaux engagements de la marque, c'est qu'il invite les clients à suivre un programme de développement durable visant à recycler leurs vêtements usagés. réduire son impact sur l'environnement est donc une motivation plus qu'importante pour la marque qui souhaite proposer des solutions à la surconsommation. Ainsi, Patagonia s'inscrit dans une philosophie sur les 3 R, réparer, réutiliser et recycler. En conclusion, on peut conclure que l'achat est devenu la clé du bonheur et du succès, et il n'est plus possible d'ignorer que notre consommation de vêtements contribue au réchauffement climatique et génère de forts impacts sur l'environnement. Il serait donc indispensable que le secteur de la mode devienne une industrie durable. Les entreprises devraient toutes vendre des vêtements éco-responsables et inciter au recyclage. Mais c'est surtout l'attitude des consommateurs qu'il faudrait changer.
Merci Ambre pour cet oral et pour vous permettre de reposer un peu votre cerveau. On se retrouve après Golden de Harry Styles. Bon retour parmi nous. Vous êtes toujours dans le programme proposé par l'équipe Tech News. On retrouve maintenant Joseph et Malo qui sont venus nous partager leur top et leur flop du voyage à Paris réalisé du 21 au 24 avril dernier.
Bonjour, mon camarade ici présent est allé à Paris pour un voyage de classe. Je vais donc lui poser quelques questions pour en apprendre plus sur ce voyage. En quoi consistait votre voyage à Paris ?
Alors, déjà, il faut savoir que nous étions 3 groupes à y aller. Dans le cas de Tech News dont je faisais partie, ça consistait à un simple voyage culturel. Tandis que pour les 1G1 et les terminales, qui eux avaient HLP comme spécialité, ça consistait à voir concrètement sur quoi ils étudiaient.
Mais vous y êtes allé avec qui pour ce voyage ?
Alors, nous sommes partis avec Tech News, les premières G1, les terminales et les secondes SSP. Il y avait bien sûr des accompagnateurs, ils étaient 5 dans mes souvenirs, mais 5 pour 40 élèves. Mais évidemment, on était sages, donc ça n'a pas été très compliqué de nous accompagner.
Et le trajet, il n'était pas trop long? Vous avez pris combien de temps?
Personnellement, j'ai cru que le trajet allait être interminable, 9 heures de route. À titre de comparaison, j'aurais pu regarder Avengers Endgame, le film le plus long de la saga, 3 fois de suite. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour faire passer le temps, mais là je l'ai regardé qu'une seule fois, bien sûr. Bon, après, le voyage a duré longtemps aussi parce que notre chauffeur devait faire plusieurs arrêts régulièrement.
Mais là-bas, vous mangez comment? Enfin, c'était bon?
Alors, durant le trajet, on a mangé sur des aires d'autoroute. Une fois sur place, parfois on mangeait sur des lieux comme le McDo ou le Flunch, mais sinon on mangeait les pique-niques préparés de lycée.
Et là-bas, vous aviez métro et tout, ou vous vous déplaçiez à pied?
Hélas, pour mes petites jambes, on a marché, marché et marché. Sur un total de 4 jours, j'ai fait 57 km et sur le mois total, j'ai fait 98 km. Bon, après, j'avoue, je suis pas un très grand marcheur, mais quand même, ça reste énorme. Après, évidemment, on a pris le métro, c'était assez drôle. Il était souvent plein.
Et vous avez visité quoi comme site? C'était lequel ton préféré? Et pourquoi?
Alors oui, évidemment, comme tous les touristes, je pense, nous sommes allés voir la Tour Eiffel. Elle était magnifique, encore mieux qu'en photo. Après, on a fait aussi les monuments emblématiques de Paris, l'Arc de Triomphe, le Louvre, le Mémorial de la Shoah ou encore l'Assemblée Nationale. Nous sommes allés jusqu'à devant le Louvre, mais nous ne l'avons pas visité. Par contre, on est allé au musée du Quai Branly et au centre de Pompidou. J'ai beaucoup aimé le Mémorial de la Shoah, c'était un monument super intéressant. Cette partie de l'histoire me plaît beaucoup, j'ai adoré en apprendre plus avec le guide.
Mais du coup, la vie à Paris, elle est plus chère que la vie en Lozère?
Alors oui, il n'y a pas photo d'ailleurs. La vie là-bas est extrêmement chère. Avec un petit groupe dans lequel j'étais, on s'était arrêté à une boulangerie. Alors faut savoir déjà que si on mangeait sur place, on payait 10 centimes de plus. J'ai pris un simple croissant, 1,50€ l'unité. En plus de ça, j'ai mangé sur place, ce qui fait 1,60€ pour un croissant. En Lozère, j'en ai pour 1€ grand max. Au prix où j'ai payé le croissant, je m'attendais à ce que le serveur vienne me donner la cuillère, m'essuyer et tout, mais rien de ça.
Et t'as remarqué des différences entre Paris et Mende? Et c'est quoi la plus grande différence que t'as vue entre ces deux villes?
Déjà, la taille de la ville, 105 km², tandis que Mende n'a que 36 km². La différence est énorme. La différence la plus flagrante, soit la population, je pense, 12 330 d'habitants en 2020 pour Mende et 2 161 000 pour Paris. Pour atteindre la population de Paris, on devrait multiplier la population de Mende par 175,3. Dites-vous que tellement qu'il y a du monde à Paris, on peut admettre plus d'une fois et demi Mende pour avoir une population au kilomètre carré. Bon, évidemment, dans Paris, il y a aussi les doubles, voire les triples de tous les inconvénients de Mende, comme les cambriolages, les déchets, le coût de la vie et aussi les gens radins.
Mais du coup, ce voyage, il t'a donné envie d'aller habiter à Paris ou même faire des études là-bas?
Alors non, pas question que j'aille habiter là-bas, même si habiter Paris, c'est comme habiter dans le futur parce que on a presque toutes les nouvelles inventions ou idées en premier. Dans sa globalité, c'est une ville extrêmement vivante, un peu trop pour moi d'ailleurs. Pour ce qui est de questions d'études, pourquoi pas, mais après voilà, si j'étudie plus tard là-bas, il faudra forcément que j'y vive aussi. Bon après voilà, ça sera pas pour toute la vie, donc je pourrais faire un effort.
Et du coup, ce voyage, il t'a permis de te rapprocher de certains camarades ou d'en rencontrer d'autres?
Évidemment, j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai vu des personnes sous une nouvelle facette, des personnes qui avaient un comportement totalement différent de celui du lycée. Parmi les personnes que je connaissais déjà, je ne pense pas qu'on s'est plus rapprochés, mais après, celles que je connaissais pas, on peut dire qu'il y a eu un rapprochement très fort. Évidemment, ça restait dans un cadre amical. Mais après, j'en connais où apparemment ce voyage a permis un rapprochement plus.
Mais du coup, c'est quoi qui t'a le plus plu dans le voyage?
L'ambiance. Vraiment, tout le monde était content d'être là. C'était un voyage pédagogique, mais très social aussi, j'ai l'impression. C'était comme une sortie de famille. Les encadrants nous surveillaient comme si on était des enfants. Bon, après, peut-être que c'était un peu leur but, mais je pense que c'est ça aussi qui m'a donné l'impression d'être en famille. Bon, j'avoue, c'était une famille très grande. Mais une famille quand même.
Et est-ce que t'as une anecdote qui t'a marqué sur ce voyage?
Alors oui, J'ai emprunté un parapluie qui s'était malheureusement égaré à l'Opéra Garnier. Il se peut qu'il ne s'était pas égaré, mais juste déposé le temps que le propriétaire fasse je ne sais quoi. Je suis passé par là, je l'ai vu, et moi, avec mon petit cœur sensible, j'ai de suite cru qu'on l'avait abandonné. Alors je me suis assis pas loin, tel un sentinelle, je regardais pour voir si l'heureux propriétaire allait revenir. Après une dizaine de secondes, je suis allé voir une de nos accompagnatrices, Madame Bergonzi, et j'ai décrit la situation. Bon, j'ai un peu arrangé à ma sauce, j'avoue. Elle m'a donné du coup l'autorisation de lui offrir un nouveau foyer. Et du coup, je suis vite allé le chercher et je l'ai ramené chez moi. C'est un petit peu mon trophée de Paris, on va dire.
Et pour terminer, c'est quoi ton souvenir de ce voyage ?
Alors, moi j'en ai trois. Le premier, c'est le parapluie. Le deuxième, je pense que c'est le retour dans le bus avec Mathias, pépite ce mec. Et en troisième, la cérémonie de l'Arc de Triomphe. D'abord parce que la cérémonie était impressionnante et belle, mais aussi parce qu'on était sous l'Arc de Triomphe. C'est une sensation incroyable.
Merci les garçons. On se retrouve juste après une deuxième pause musicale avec cette fois Washing Machine Heart de Mitski. Bonjour à tous. On se retrouve maintenant pour écouter Lilian et sa chronique de coups de cœur.
Bonjour et bienvenue dans cette rubrique des tendances. Je vais vous dévoiler les tendances des séries, films et musiques du mois de mai. Pour le cinéma, ce mois-ci, les films les mieux appréciés par les spectateurs sont Les Gardiens de la Galaxie volume 3, le nouveau blockbuster de Marvel, le film Super Mario tiré du jeu vidéo du même nom et Les Trois Mousquetaires de D'Artagnan. Pour ce qui est des séries, pour le mois d'avril, les plus consultés sont Bardot, une série sur la célébrité Brigitte Bardot sur France TV, Béhari, la nouvelle série d'action de Canal+, et La Reine Charlotte, drame historique sur Netflix. Enfin, pour ce qui est des musiques, les musiques les plus écoutées pour ce mois de mai sont Flowers de Miley Cyrus en première place, Eyes Closed de Ed Sheeran, Secret de Luan, Baby Don't Hurt Me de David Guetta et Coil Ray, et Say 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 de Kygo.
Merci Lilian. Tout de suite, le Fast and Curious de Monsieur Banès, réalisé par Laura et Neo, suivi d'une nouvelle pause musicale. Cette fois, on passe Hometown de 21 Pilots.
Quand j'étais au lycée, c'est de là que partaient les courses.
Fast and Curious. Fast and Curious.
Bonjour, ben je suis Patrice Banès, professeur de lettres au lycée Émile Pétavard de Mende.
Jaune ou bleu?
Bleu.
Vans ou The North Face?
The North Face.
Baudelaire ou Lagarce?
Choix difficile, Baudelaire.
Commentaire ou dissertation?
Dissertation.
La princesse de Clèves ou Madame Bovary?
Ah, Madame Bovary, sans hésitation.
Oral de français ou écrit de français?
Oral.
Foot ou rugby?
Rugby.
Film ou série?
Film.
En retard ou en avance?
En avance.
Boulot ou dodo?
Les deux.
Lire un livre ou regarder un film?
Lire un livre.
Ketchup ou mayo?
Les deux, j'adore les deux mélangés.
Littérature d'idées ou poésie?
Poésie.
Théâtre ou cinéma?
Choix cornélien. Les deux.
Olympe de Gouges ou Marguerite Duras?
Marguerite Duras, sans hésitation.
En poème, l'horloge ou recueillement?
L'horloge.
Bonsoir, vous êtes toujours sur l'émission de radio proposée par l'équipe Tech News. Cette fois, on retrouve Camille et Eva qui ont participé au défi Data « Pour que les femmes comptent, il faut les compter » et qui nous proposent un retour. Bonsoir les filles.
Dans Belle Amie, de Guy de Maupassant, Madeleine écrit « Dans l'ombre de Forestier et du Roi » car à son époque, elle n'avait pas le droit d'écrire des articles de presse en raison de son genre de naissance. Quand on était née femme, difficile de prendre la plume. 150 ans plus tard, les femmes peuvent être journalistes et écrire des articles, mais sont sous-représentées. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la représentation des femmes dans la presse sous forme d'une interview. Nous sommes Eva et Camille, et nous avons travaillé sur le sujet dans le cadre du projet régional Défi Data pour que les femmes comptent, encore faut-il les compter.
Tu as parlé du projet Défi Data, tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est un projet qui a été proposé par le CLIMI et l'atelier Canopée de Montpellier. En gros, le CLIMI accompagne les établissements scolaires pour tout ce qui concerne l'éducation aux médias et Canopée propose des ressources pédagogiques. Ils ont créé des projets Défi Data pour permettre aux élèves de travailler sur les inégalités de genre dans la presse et les médias.
Et concrètement, ça se passe comment ? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous avez fait en classe ?
Deux classes de seconde générale et une classe de terminale ST2S ont donc travaillé sur ce projet en deux temps. Une première étape, avant les vacances de printemps, nous avons reçu une des articles de presse et de plusieurs périodiques locaux et nationaux, parmi lesquels 20 minutes, Aujourd'hui, La Dépêche, Le Figaro, Le Journal de l'Île de la Réunion, Le Monde, Midi Libre et Libération. À partir de ces pages de presse, nous avons quantifié pour les unes. Le nombre de femmes et d'hommes dans les titres, le nombre de femmes et d'hommes, anonymes ou non, dans les illustrations. Et pour les articles, le nombre de femmes et d'hommes journalistes, le nombre de femmes et d'hommes cités dans les articles et le nombre de femmes et d'hommes, anonymes ou non, dans les illustrations. Le lundi 15 mai, l'atelier Canopée de Montpellier nous a renvoyé toutes les données collectées par les 10 établissements participants de l'académie sous forme de tableaux pour que nous les analysions et créions des diagrammes pour les rendre plus visuels et plus faciles à comprendre. Donc aujourd'hui, on a manipulé les tableaux de données, on a choisi des données qu'on voulait utiliser et on a trouvé un angle pour les rendre plus parlantes et on a fait des data visualisations, c'est-à-dire des graphiques.
Et du coup, ça vous a permis de comprendre quoi ? Vous avez vraiment pu voir les inégalités du genre dans la presse ? Parce que la question qu'on se pose, c'est quand même si oui ou non, les femmes sont moins bien représentées que les hommes.
Alors la première réponse est oui. Il y a de vraies inégalités de représentation entre les femmes et les hommes dans la presse locale et nationale. Par exemple, dans la rubrique sport de différents journaux, 85% des sportifs cités sont des hommes, et pour la rubrique culture, c'est 70%. J'irai même plus loin en vous apprenant que plus des trois quarts des personnes citées dans toutes les rubriques confondues sont des hommes. Et dans les illustrations des articles, à peine 30% des personnes sont des femmes. Concernant ce que l'on a appris sur les data visualisations dans la presse et les médias, on a été étonné de voir que certains médias d'information n'étaient pas très rigoureux dans leur data visualisation. Des totaux en pourcentage qui dépassaient les 100%, des camemberts ou des diagrammes qui ne sont pas proportionnels ou en lien avec les chiffres à mettre en avant. Du coup, ça interroge sur la fiabilité de ce que l'on trouve partout et tout le temps, aux infos, sur les réseaux sociaux, etc. C'est à se demander si les données ne sont pas utilisées et orientées pour faire passer certains messages, en utilisant des camemberts avec de mauvaises proportions par exemple. Nous avons été vigilants à l'angle qu'on choisissait pour faire passer les infos, mais sans les détourner. Enfin, concernant l'égalité des chances dans l'orientation professionnelle, on s'est rendu compte concernant la représentation des femmes dans le monde du journalisme que la parité est loin d'être acquise et que certaines inégalités sont renforcées dans les domaines où les stéréotypes ont la vie dure, comme le sport par exemple. C'est en effet dans les rubriques sportives que les femmes journalistes sont le moins représentées. On rappellera quand même que lors de la dernière émission Tech News, c'est Wendy qui a choisi de faire son grand oral sur le foot.
Merci Camille. Et pour finir, tu pourrais nous donner quelques chiffres qui t'ont particulièrement marqué ou une réaction sur ce projet ?
En effet, il y a une donnée qui m'a particulièrement attiré mon attention. Seulement 11% des journalistes de la rubrique sport sont des femmes. Cela montre et accentue les stéréotypes de genre présents dans la société. Et sinon, j'ai particulièrement aimé réaliser ce projet car il permet de mettre en lumière les inégalités présentes entre les femmes et les hommes dans le domaine de la presse. Et j'aimerais conclure en rappelant que tous les métiers devraient être accessibles de la même manière à tout le monde, quel que soit le genre.
Merci les filles. Et pour cette dernière partie d'émission, nous remobilisons les travaux réalisés lors de la journée académique de l'expression collégienne et lycéenne par la radio scolaire. Les participants étaient des élèves du lycée Émile Peytavin ainsi que des collégiens du Haut-Gévaudan. Le premier podcast réalisé porte sur l'apparition de MyIA sur dans Snapchat.
Journée académique de l'expression collégienne et lycéenne par la radio scolaire 2023.
Bonjour à tous, je m'appelle Naël et en ce 16 mai, nous allons parler de l'apparition de l'intelligence artificielle MyIA sur l'application Snapchat. Maintenant, je vais donner la parole à Milo qui va vous expliquer le fonctionnement de cette nouveauté.
Depuis le 2 mai 2023, une fonctionnalité gratuite Snapchat Plus réservée aux membres premium est apparue. Une intelligence artificielle. MyIA est une intelligence artificielle qui reproduit une personne humaine et à qui on peut parler dans les messages. Il peut faire ou t'aider pour tes devoirs. Malheureusement, nous ne pouvons pas effacer cette intelligence artificielle et elle est épinglée.
Merci Milo pour cette intervention. On vous propose une petite compilation des réactions suite à l'apparition de MyIA.
Que pensez-vous de l'intelligence artificielle développée par Snapchat en 3 mots?
Inutile, dangereux et inefficace.
Inutile, inapproprié, je dirais, c'est pas la bonne plateforme.
Intéressant, ludique, mais dangereux.
Innovant, effrayant et utile.
Inutile,
méconnu, innovant et dangereux.
Nous vous remercions pour votre participation. Maintenant, passons la parole à Néo qui va vous parler de son expérience.
Bonjour, j'ai testé cette intelligence artificielle dès sa sortie car j'ai été intrigué. J'ai commencé par lui poser des questions basiques telles que « ça va ? Quel temps fait-il ?». Je me suis rendu compte qu'il était possible de personnaliser son avatar et de lui donner un nom, de le rendre plus humain. Cela a atténué son côté artificiel. Sur les réseaux, MyAI a fait beaucoup parler de lui, notamment à cause de certaines réactions. En effet, plusieurs TikTok commencent à montrer des conversations avec MyAI. Des utilisateurs disent à l'intelligence artificielle qu'ils vont se suicider, et celle-ci répond « Non, ne fais pas ça », et propose un numéro d'urgence. Cette réponse de MyAI montre selon moi les limites de cette illusion. On veut nous faire croire que les intelligences artificielles sont le remède à tout, mais dans cette situation, elle ne peut clairement pas se substituer à un utilisateur humain. Même si je retourne souvent lui parler pour rire, il y a cependant certains aspects qui me gênent, notamment le fait qu'il ait une atteinte totale à mes données. De plus, le fait qu'il réengage la conversation à chaque fois me dérange, car il est très intrusif.
Merci Néo. Tout de suite, on retrouve Lana et Noah qui vont détailler les risques de MyAI.
Comme nous l'a dit Milo, la nouvelle intelligence artificielle développée par Snapchat nous offre facilité, divertissement, suscite notre curiosité et pourrait même nous aider à faire nos devoirs. Cependant, cette dernière présente aussi des risques. Ce système collecte des données telles que notre localisation ou nos informations personnelles, ce qui illustre le proverbe « si c'est gratuit, c'est toi le produit ».
Mais ce qui nous semble être le plus problématique, c'est le risque d'addiction. Même si certains y voient un moyen de lutter contre la solitude, le simple fait de pouvoir lui créer sa propre identité favorise le risque de dépendance. Nous avons l'impression de parler à une vraie personne. En outre, cet outil fausserait nos relations car MyAI ne sera jamais en désaccord avec l'utilisateur. En réalité, dans nos relations sociales, nous avons besoin d'avoir des opinions divergentes pour développer un esprit critique.
Merci Noé et Lana. Je vous laisse maintenant avec Ambre qui est allée rencontrer Jean-Michel Boulet, infirmier de l'éducation nationale. Répondra ensuite aux questions de Ambre.
Et en quoi celle-ci peut représenter un danger pour ses utilisateurs?
Alors, les IA conversationnelles sont aussi appelées des générateurs de baratin, hein, c'est-à-dire qu'elles donnent les réponses supposées attendues par l'utilisateur. Les réponses sur certains sujets peuvent donc être inadaptées, notamment sur des sujets sensibles comme le suicide ou la sexualité. Et ces réponses, en plus, ne bénéficient pas de vérification des sources ou de croisement des données collectées, ni d'analyse. Et en plus, bon, il y a une perte de contact avec les vraies relations humaines, les compétences psychosociales. Et l'un des risques encourus, c'est que les personnes ne sachent plus interagir efficacement entre elles.
Pour finir, en quoi est-ce nécessaire de faire de la prévention sur ces outils?
Eh bien, comme tout outil, les intelligences artificielles et les outils numériques sont à la fois source de richesse et d'enrichissement de possibles, et en même temps sont aussi source de danger. Quand on fait de la menuiserie, on apprend à utiliser son outil avec des gants et du matériel de protection, et l'outil numérique nécessite les mêmes précautions.
Merci de nous avoir écoutés et au revoir.
On enchaîne sur un autre podcast qui concerne cette fois les fans de sport et de culture au sein de la mini-rédaction.
Journée académique de l'expression collégienne et lycéenne par la radio scolaire 2023.
Bonjour, je m'appelle Joseph, je fais partie du lycée Émile Pétavin et aujourd'hui je suis accompagné de Jacem.
Bonjour à tous, je suis un élève de 6e dans le collège Auger Vaudin et nous sommes présents aujourd'hui dans le cadre de la journée de l'expression par la radio scolaire accompagnée d'autres élèves des établissements respectifs.
Nous avons décidé de traiter de nos passe-temps en tant que collégiens et lycéens. Et si la plupart pensent que nous allions traiter de TikTok, nous avons pu distinguer, à votre plus grande surprise, deux groupes. Le premier, passionné de sport, et le deuxième, d'art.
Commençons par les sportifs. Pour vous, d'abord, chacun vous vous présentez.
Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis en première année de lycée, et je suis au lycée Émile Pétavet, je fais du foot.
Bonjour, je m'appelle Hugo, je fais du tir à l'arc, et je suis en 6e au collège Auger Vaudin.
Bonjour, je m'appelle William, je suis un élève de 6e au collège Auger Vaudin et je pratique le basket.
D'accord, donc pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce sport ?
J'ai choisi ce sport car c'est un des rares sports qu'on fait au pied et car un joueur m'a impressionné dans ce sport.
J'ai choisi ce sport parce que je voulais le faire depuis longtemps.
Depuis quand le pratiquez-vous ?
Je fais du basket depuis 6 ans. J'ai décidé de me lancer il y a environ 3 mois.
Et pour terminer, quel est votre idole, celui qui vous a poussé à faire ce sport peut-être ?
Mon idole est Michael Jordan grâce à son talent et sa technique.
Moi, mon idole, c'est LeBron James parce que j'aime beaucoup son style de jeu quand il joue au basket.
Moi, mon idole, c'est Lionel Messi car il est très technique et fort mentalement.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous allons désormais passer à nos artistes.
Pouvez-vous vous présenter et présenter le domaine qui vous intéresse ?
Bonjour, je m'appelle Laura, je suis en terminale générale au lycée Émile Pétavin et j'adore le théâtre.
Bonjour, je m'appelle Eva, je suis en classe de seconde générale au lycée Émile Pétavin et j'aime beaucoup la lecture.
Bonjour, je m'appelle Milo, je suis au collège Auger Vaudin et j'aime bien la musique et le dessin.
Bonjour, je m'appelle Marius, je suis en seconde générale au lycée Pays Tavin et je suis un grand passionné de musique et de piano.
Et depuis quand pratiquez-vous ?
Personnellement, je suis passionné de musique depuis l'âge de 5 ans et j'ai commencé à pratiquer le piano à l'âge de 7 ans.
J'ai commencé le piano il y a 3 ans et le dessin m'a toujours attiré.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Personnellement, le théâtre, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi et à être plus à l'aise à l'oral en parlant avec des gens ou même quand j'avais des travaux en classe, des oraux en classe et pour cette année, le grand oral.
Et personnellement, la lecture, ça m'a apporté du calme. Ça me permet de me mettre dans un coin toute seule et d'être au calme tranquillement. Et ça m'a aussi apporté des connaissances sur divers sujets.
Quelle œuvre ou artiste préférez-vous ?
Donc, je me souviens plus trop de l'artiste, mais le nom de l'œuvre, c'était une pièce de chaussettes sales et c'était une pièce de théâtre, la première que j'ai jamais jouée. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué.
Personnellement, c'est pas une œuvre ou une personne en général, c'est plutôt un thème, et ce serait le thème de la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, les camps de concentration, les histoires de rescapés ou les histoires de familles de rescapés.
Pour le dessin, je m'inspire de toutes sortes de livres et j'aime les Mistral gagnants de Renaud que je joue au piano.
Personnellement, je n'ai pas une œuvre préférée, mais un artiste que j'adore, c'est Mac DeMarco.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'était Joseph et Jacem.
Au revoir. Le dernier podcast proposé porte sur les JO 2024.
Journée académique de l'expression collégienne et lycéenne par la radio scolaire 2023.
Face à la situation exceptionnelle des JO organisés en France en 2024, les prix des billets sont vivement critiqués.
Il varie beaucoup en fonction des compétitions, mais en faisant la moyenne entre plusieurs disciplines, en catégorie A, on trouve un résultat à 445 €. En catégorie C, on est aux alentours de 150 €.
Le comité d'organisation garantit des prix accessibles, 24 €. Ceux-ci sont en fait des places en phase de poule et avec une pauvre visibilité.
2024 à Paris, sur les bords de Seine. Une date qui pose question au gouvernement, puisque les Jeux Olympiques seront officiellement lancés. C'est la cérémonie d'ouverture. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et responsable de la sécurité des Jeux Olympiques. Ses athlètes sont publics et ses bénévoles du pont d'Austerlitz au Trocadéro sur 6 km, 116 bars et 1500 athlètes défileront devant les plus beaux monuments de la capitale, mais surtout devant près de 600 000 personnes. C'est un véritable casse-tête sécuritaire face à une menace en quatre dimensions.
Une menace en raison des mouvements de l'eau de la Seine qui risque d'être plus importante qu'à l'ordinaire. Une menace terrestre à cause des potentiels mouvements de foule, sans oublier les risques terroristes. Ce dernier est intensifié par la méthode de reclutement de la sécurité effectuée par la démarche téléphonique par Pôle emploi. Une menace qui est aussi aérienne avec les drones porteurs de bombes qui pourraient s'infiltrer parmi les drones de surveillance. Dans les hauteurs, les habitants des immeubles surplombent la Seine. Inquiétant, devraient-ils se déménager pour servir l'image de la France? Enfin, une menace cyber à propos de la diffusion radiophonique et télévisée. Y aura-t-il suffisamment de main-d'œuvre pour sécuriser la cérémonie d'œuvre des JO 2024?
Autre sujet qui pose question, les caméras de surveillance. 400 caméras supplémentaires seront installées dans la capitale et la reconnaissance faciale sera activée à cette occasion. Les images seraient ainsi analysées par des intelligences artificielles s'il y a des mouvements de foule, des rassemblements ou des bagages abandonnés. Au total, plus de 295 millions d'euros sont déboursés pour la sécurité. Alors la sécurité passerait-elle avant le sport ?
Voilà que cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés, c'était le dernier programme Tech News de l'année. Un grand merci au Terminal qui part bientôt pour une nouvelle vie. On se quitte sur See You Again de Wiz Khalifa.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
I'll tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take,
friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When